Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Pour les contribuables français qui le faisaient sur Internet, la date limite de déclaration des revenus vient de passer, c'était cette semaine. Parfois, déclarer ses impôts est un casse-tête et les payer encore plus. Pas un jour sans que les médias français n'évoquent au choix le prélèvement à la source, le ras-le-bol fiscal, l'injustice fiscale, la fraude fiscale. C'est vrai en France, mais pas seulement. On peut citer le cas grec où l'évasion fiscale est un sport national qui fait hurler les dirigeants européens. On pourrait parler du Brésil où on débat en ce moment de la création d'un impôt sur les grandes fortunes et la liste est sans fin. C'est la raison pour laquelle cette émission s'intitule « L'impôt, pourquoi le payer ?». Au cours de cette émission, nous nous interrogerons sur les liens entre le citoyen qui paie ou pas l'impôt et la société. Nous nous demanderons si payer l'impôt est indispensable au développement des pays pauvres et s'il renforce leur souveraineté. Nous évoquerons aussi bien sûr le difficile consentement parfois à l'impôt dans les pays développés et nous nous interrogerons aussi sur la lutte contre la fraude. Pour évoquer ces sujets qui sont fondamentaux, deux invités dans ce studio. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour.
Gilles Dufresneau, vous êtes professeur de sciences éco à l'Université Aix-Marseille, chercheur associé au CEPI, le principal centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale. De 2004 à 2008, vous avez été conseiller du commissaire chargé des politiques économiques de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On en a fini avec les sigles et vous avez publié l'an dernier un livre qui s'appelle « Les politiques budgétaires dans la crise, comprendre les enjeux actuels et les défis futurs » aux éditions De Beuck. Gilles Dufresneau, payer ses impôts, c'est un acte économique important?
C'est non seulement un acte économique, mais c'est aussi un acte citoyen parce que on le verra peut-être, payer l'impôt est une façon de redistribuer lorsque les revenus primaires sont inégalitaires.
Qu'est-ce que vous appelez les revenus primaires?
Alors, les revenus primaires, c'est tout simplement les revenus avant le paiement de l'impôt, c'est les revenus du travail notamment.
Avec nous dans ce studio également Alexis Spire. Bonjour Alexis Spire.
Bonjour.
Alexis Spire, vous êtes directeur de recherche au CNRS, sociologue, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'impôt. Je vois la liste qui est encore pas très longue, mais il y en a plusieurs. En 2010, avec l'historien Nicolas Delalande, une histoire sociale de l'impôt aux éditions La Découverte. En 2012, aux éditions Raison d'agir, un livre intitulé « Faibles et puissants face à l'impôt ». Et vous préparez un troisième livre consacré à la répression de la fraude fiscale qui s'appellera « L'impunité fiscale », c'est ça ?
C'est bien ça.
Et qui est coécrit avec Katia Weidenfeld, donc « L'impunité fiscale ». De quoi s'agit-il exactement dans ce livre ?
Là, il s'agit de se demander, par rapport à la fraude fiscale, qu'est-ce qui se passe quand, vis-à-vis des grandes fraudes, comment on réprime, du point de vue de l'État, mais aussi du point de vue des juges, puisque la fraude fiscale peut être un délit pénal, et donc on a été regardé de près, à la fois les jugements, les sanctions, et tout le processus qui conduit à condamner ou pas les fraudeurs de l'impôt.
Alors, au cours de cette émission, nous irons à Athènes rejoindre notre correspondante Charlotte Stivenard, à Brazzaville au Congo avec un reportage de Loïcia Martial et nous entendrons Isabelle Vallot d'Expertise France.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
La réforme fiscale est un engagement que j'ai pris durant la campagne présidentielle. Ce qu'a proposé le Premier ministre, c'est d'avoir une réforme de notre système d'imposition qui ait trois objectifs. Un objectif de simplification, un objectif de clarification et un objectif de justice.
Nous avons regardé de près les choses avec le président de la République et nous avons pensé qu'il fallait une mesure encore plus forte pour montrer aux Français notre engagement. Il faut sortir de cette logique de l'impôt qui empêche les ménages de consommer.
Il y a au moins un élément de lucidité dans ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il y a un problème de consentement à l'impôt. Le refus du Premier ministre d'imaginer, de simplement comprendre qu'en France, aujourd'hui et demain, les impôts doivent baisser. Évidemment, les dépenses doivent baisser aussi.
Nos concitoyens ne supportent pas cette augmentation, d'autant plus qu'ils se demandent à quoi ça sert. C'est ça le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander plus d'impôts et puis avoir moins de services publics. Je vous rappelle que dans les années 80, on payait beaucoup plus d'impôts dans ce pays. On protestait moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'État social.
Alors, vous aurez reconnu ou pas, peut-être, les voix de François Hollande, président de la République, du Premier ministre Manuel Valls, d'Hervé Mariton, député ex-UMP, aujourd'hui Les Républicains, et en dernier, Éric Coquerel, coordinateur général du Parti de Gauche. Pourquoi est-ce qu'on débat si vigoureusement de la question fiscale en France, Alexis Spire ? Pourquoi est-ce que c'est si musclé comme débat ?
Pour plusieurs raisons, à mon avis. C'est pas tout le temps le cas, mais là, c'est vrai que depuis 2008, on est quand même face à une crise des finances publiques et donc qui pose la question et d'une montée en charge de l'impôt pour renflouer les caisses de l'État. Donc ça met l'impôt à l'agenda. Et puis il y a peut-être une raison plus structurelle qui est que dans une période où la droite et la gauche se rapprochent du point de vue de beaucoup d'enjeux idéologiques, où les marges de manœuvre des gouvernements se rétrécissent sur beaucoup d'aspects de la vie économique et sociale, on a le sentiment que, y compris vis-à-vis de l'Europe, etc., l'impôt, c'est peut-être le dernier précaré où l'État peut sembler pouvoir intervenir, en fait. Et donc, c'est peut-être aussi, sur longue période, une manière pour l'État de se mettre en scène comme un acteur à part entière de la vie économique, ce qui, pour beaucoup d'autres aspects, n'est plus.
Gilles Dufresneau, vous en pensez quoi, vous, de ce débat musclé sur l'impôt en France ?
Alors, je crois qu'il vient de deux choses. Il vient d'une part de la prise de conscience au niveau politique qu'il faut absolument... alors que les impôts avaient fortement baissé en France, notamment depuis les années 80, effectivement, le problème de la dette est devenu si important qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Donc, ça passe par l'impôt. Alors, le débat porte sur la question de savoir est-ce que pour réduire les déficits budgétaires, il vaut mieux augmenter les impôts ou bien diminuer les dépenses. Et en France, on préfère augmenter les impôts parce que le rendement c'est beaucoup plus facile à faire plutôt que les baisser. D'un autre côté, les citoyens, les entreprises, etc., eux peuvent avoir le sentiment d'une oppression fiscale, c'est-à-dire que les impôts ont tellement augmenté qu'ils se demandent à quoi ça sert. Donc je pense que le débat vient de ça, c'est peut-être d'un côté une prise de conscience politique sur l'importance de l'impôt pour régler les problèmes de la dette publique, et de l'autre côté le fait que la société civile finalement ne se demande pourquoi est-ce qu'elle paye les impôts.
Alexis Spire, historiquement, est-ce que ce débat fiscal a toujours été aussi important, aussi central, aussi musclé en France ?
En fait, il y a eu des périodes où il a été très musclé, notamment, il faut se souvenir que l'impôt sur le revenu a mis très longtemps à être instauré, deux voire trois décennies pour instaurer l'impôt sur le revenu, finalement à la faveur de la Première Guerre mondiale,
en 1914.
Voilà, exactement, enfin 1917 exactement, et ensuite il y a eu des moments de crispation autour de l'impôt, au moment de des grandes réformes. Il y a toute une tradition en France de révoltes antifiscales qui ont aussi mis à l'agenda la question de l'impôt. Donc voilà, ce qui est frappant, je trouve, là aussi, si on veut relever un mouvement de long terme, c'est que en France, la question sociale a été formulée beaucoup autour de la question ouvrière, de la question des salaires et de la question de la répartition, en fait, de la répartition des richesses. Tout le XXe siècle, en fait, toute l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement social et l'histoire de cette question de la répartition des richesses. Et là, ce qui est frappant dans la période plus récente, c'est qu'on a l'impression que de plus en plus la question sociale est reformulée. Et que cette question de la répartition des richesses, elle est presque mise en sourdine et elle est reformulée autour de la question fiscale et autour de qui paye quoi comme prélèvement. Et ça, là aussi, c'est peut-être un mouvement, disons, de longue haleine ou de structurel, presque j'ai envie de dire, le fait qu'on débat finalement de moins en moins de la question de la répartition de la valeur, des inégalités en amont et de plus en plus des inégalités en aval ou en tout cas de la capacité de l'impôt à atténuer ces inégalités.
Gilles Dufresneau, vous partagez ce point de vue ?
Oui, absolument. Alors, je dirais que historiquement, dans le cas de la France, il y a quelques périodes clés. La période de l'Ancien Régime est une période où finalement on a vécu un plus grand nombre de révoltes face à l'impôt pour une raison qui est très simple, c'est que avant la Révolution, il y avait énormément d'impôts indirects, et que à ces impôts sont venus s'ajouter des impôts royaux. Donc historiquement, les gens payaient des impôts au seigneur, à l'église, aux municipalités, etc. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que 1789, dans un premier temps, va un petit peu supprimer tout ça. On va simplement conserver, au nom de l'égalité, un impôt sur la fortune. Et puis, il y a une nouvelle date, effectivement, comme vous l'avez dit, 1945, où là, l'impôt va... finalement, notre système fiscal aujourd'hui résulte de la longue histoire de ce qui s'est passé depuis 1945, parce que à partir de 1945, on va dire, eh bien, l'impôt, ça sert à faire de la redistribution, ça sert à assurer de la protection sociale, à assurer un certain nombre de services sociaux. Donc,
Et est-ce qu'en Europe, le débat est aussi musclé qu'il l'est en France, Alexis Spire ?
Alors, ça dépend des pays, mais c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, un débat très fort et des mouvements très forts, par exemple, en Angleterre, autour de la flat tax.
Quand ?
Là, c'était au début des années 80, enfin dans les années 80, en fait, hein, c'était le projet, de la droite anglaise d'instaurer un impôt qui soit proportionnel et plus progressif. Et là, ça, c'est un débat qui...
C'était à l'époque de Margaret Thatcher.
Voilà, exactement. Là aussi, c'est un débat qui traverse, beaucoup de pays européens, cette question. C'est-à-dire que les pays européens ont, dans leur ensemble, instauré des impôts sur le revenu progressif et qui, dans la période récente, en fait, surtout depuis les années 80, sont de plus en plus contestés pour le fait qu'ils sont progressifs et on a des droites nationales dans différents pays européens qui essayent de lui substituer un impôt proportionnel et qui n'augmente pas avec la richesse de ceux qui le payent.
Oui, deux mots techniques, Gilles Dufresneau, impôt proportionnel, impôt progressif, quelle est la différence ?
Alors c'est tout simple, hein. L'impôt proportionnel, ça veut dire vous payez un impôt proportionnellement à la valeur de votre revenu, de votre patrimoine, etc. Maintenant, l'impôt, il peut être progressif ou bien régressif. Progressif, ça veut dire que plus votre revenu, par exemple, est élevé, plus proportionnellement, vous payez plus par rapport à quelqu'un qui serait dont les revenus seraient moins élevés. Et régressif, c'est l'inverse, c'est que finalement, la proportion des impôts que vous payez quand vous gagnez beaucoup est plus faible en proportion par rapport à quelqu'un qui gagne un petit peu moins.
D'accord avec cette définition, Alexis Spire ?
Oui, tout à fait. Alors là où il faut se méfier, on a c'est que en France, on pourrait penser que l'impôt est progressif parce qu'on a tendance à se focaliser sur l'impôt sur le revenu, qui lui est vraiment progressif, mais il est de plus en plus disons concurrencé, c'est le cas de le dire, par des prélèvements obligatoires qui eux sont proportionnels. Et en fait, aujourd'hui, la France est un des pays en Europe à avoir finalement le système progressif le plus faible par rapport à l'impôt proportionnel. Si on pense au fait, à la TVA, à la TIPP, tous ces impôts qui eux sont proportionnels. On peut aussi penser au prélèvement à la source par la CSG. On a finalement aujourd'hui en France une petite part de nos impôts qui sont progressifs, à savoir l'impôt sur le revenu, et une très grosse part qui sont proportionnels.
Alors, il y a un État en Europe qui a pu vivre très longtemps ou presque sans faire payer beaucoup d'impôts à ses citoyens. C'est la Grèce, ce qui vaut à Athènes les problèmes qu'on sait. Et aujourd'hui, c'est la contraction de l'économie qui réduit les entrées fiscales de l'État grec. Ce n'est pas le seul problème, comme en atteste ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs de Charles Stivenard à Athènes.
Sur son pull, il porte le logo discret d'une marque de voiture. Achilles Dessilas travaille pour un concessionnaire automobile. Il gagne environ 9000 euros par an, un peu en dessous du salaire moyen. Jusqu'à une date récente, il n'était pas imposable, mais ces dernières années, à trois reprises, il a dû verser plus de 1000 euros à l'État.
La crise est arrivée et ils ont voulu collecter de l'argent. Ils ont vu qu'il fallait taxer et forcément, ils ont ajouté des impôts. Mais c'est une augmentation injuste parce qu'ils ne font pas la différence entre les riches et les pauvres.
Selon une étude de la Fondation Hans Böckler, la charge fiscale de la moitié la plus pauvre de la population a augmenté de 337% contre 9% pour la plus riche. Ces inégalités sont aussi liées aux impôts indirects. Grigoris Raimundos vend des sandwichs et des boissons depuis 8 ans. Les récentes augmentations de la taxe sur la valeur ajoutée ont rendu son travail difficile.
Nous étions au départ à 9%. On est monté à 11%, 13%. Et quand c'est passé à 23%, ce qui est une grande différence, on a eu un problème important. À cause de la crise, nous n'avons pas pu reporter cette augmentation sur les prix.
Aujourd'hui, incapable de se verser un salaire, il doit fermer boutique. Pour lui, comme pour l'employé du concessionnaire automobile, les impôts sont nécessaires, mais il faudrait les adapter aux revenus réels. Dimitris Bimpas est chercheur à l'Institut de la Confédération Générale Grecque des professionnels, artisans et commerçants. Il estime que l'État a amélioré ses revenus, mais pour lui, les augmentations ne sont pas arrivées au bon moment.
Il faut savoir que ces ajustements se font aux dépens de la solidarité sociale, de la stabilité économique et de la croissance des entreprises.
Aujourd'hui, alors que la plupart des salariés grecs sont prélevés à la source, il y aurait plus de 76 milliards d'euros d'impôts et de cotisations sociales impayées. La fraude existe toujours, elle aussi, surtout répandue parmi les professions libérales, un problème auquel le gouvernement d'Alexis Tsipras a choisi de s'attaquer en augmentant les contrôles sur les comptes suspects.
Alors c'était un reportage de Charlotte Stivenard à Athènes. Il illustre bien la problématique de l'impôt en Europe, Alexis Spire.
En Europe, je sais pas, parce qu'en fait, il faut quand même avoir en tête que chaque impôt et chaque histoire fiscale est liée à l'histoire de l'État et que, de ce point de vue-là, je sais pas si on peut généraliser l'exemple grec, c'est le cas de le dire, mais de même qu'on peut pas généraliser l'exemple de la France. C'est-à-dire que là aussi, il faut être quand même très prudent quand on essaye d'importer directement des techniques ou des méthodes en pensant que c'est directement transposable. La question de l'impôt, c'est quand même une question très ancienne qui est liée à l'histoire de chaque État, qui est liée à chaque tradition nationale et qu'il faut prendre en tant que tel.
Gilles Dufresneau, ne pas payer d'impôts, c'est culturel ? C'est quelque chose qui est dans les gènes, en quelque sorte, dans l'histoire ?
Alors, je ne dirais pas ça. Si on prend le cas spécifique de la Grèce, je dirais que c'est quelque chose qui est structurel, mais que ça avait été masqué jusqu'en 2011 par le fait que l'État grec pouvait se emprunter facilement sur les marchés de capitaux. Donc finalement, les dépenses qu'on ne pouvait pas financer par l'impôt, on le finançait par la dette. Et c'est la crise de la dette et la difficulté du refinancement sur les marchés de capitaux qui a fait apparaître le fait que le point faible, c'était un taux de prélèvement obligatoire qui était extrêmement bas. Alors, ensuite, il y a un certain nombre de raisons qui expliquent la faiblesse des impôts. Évidemment, il n'y a pas simplement le fait que les gens ne veulent pas payer d'impôts. Il y a un certain nombre de clichés. Il faut quand même comprendre que à peu près 60% des Grecs payent leurs impôts puisque cet impôt il est prélevé à la source. Donc c'est pas vrai que les Grecs ne payent pas d'impôts. Simplement, cet impôt n'est pas rentable parce que vous avez une fraude fiscale qui peut être importante, parce que vous avez un certain nombre de catégories sociales qui sont exonérées et qui pourraient potentiellement représenter un gisement important, et également parce que vous avez une évasion fiscale significative.
Mais quand vous étudiez l'impunité fiscale, dans le livre que vous allez publier, est-ce que l'exemple grec est emblématique, Alexis Spire?
Alors, il n'est pas emblématique dans le sens où le problème de la Grèce, c'est essentiellement un problème d'administration, d'une certaine manière, de structure administrative et de lutte contre la fraude liée à un maillage administratif qui permette de empêcher que notamment les indépendants et pas seulement, échappent à l'impôt. Nous, ce à quoi on s'est intéressé, c'est à la façon dont la justice ensuite peut intervenir. Et donc, d'une certaine manière, une fois que la fraude a été décelée, en fait, et dans quelle mesure ça constitue un délit. Parce que là aussi, la vision qui peut y avoir dans les représentations communes, dans les représentations de l'État, de la fraude fiscale, est importante pour le consentement à l'impôt, en fait. Et donc, c'est essayer de remettre ensemble ces deux questions-là.
Ça sert à quoi l'impôt, Gilles Dufresneau ?
Ça sert à plein de choses. Ça peut servir dans plusieurs sens. D'abord, c'est un outil de compétitivité. Lorsqu'un gouvernement décide de renforcer la compétitivité de ses entreprises à l'extérieur, il peut moduler l'impôt, décider des baisses de prélèvements obligatoires, etc. Mais ça sert surtout, de mon point de vue, à corriger les inégalités. Alors on peut avoir plusieurs points de vue. Si vous êtes aux États-Unis et en Angleterre, bien la banque considère que l'impôt doit remplir essentiellement des objectifs économiques. En France et dans un certain nombre de pays d'Europe, on considère que l'aspect impôt devant servir à la redistribution est quelque chose d'important. Un des problèmes qui se pose, c'est de savoir est-ce que les gens en ont conscience. C'est-à-dire que lorsque je paie mon impôt, est-ce que j'ai conscience que en augmentant mon impôt, ça va permettre de donner plus de protection sociale à quelqu'un d'autre ou pas. Est-ce que j'ai conscience que si je suis malade, je peux être pris en charge par la collectivité grâce aux impôts que je paie, etc. Donc l'impôt, ça sert à ça, mais le point important, c'est le ressenti fiscal. Il faut que les gens en aient conscience.
Est-ce que les Français ou les Grecs en ont conscience, Alexis Spire ?
Alors, je pense qu'ils en ont conscience, et en même temps, ce qui est très inquiétant, alors là, je parlerai plus pour la France, parce que le cas de la Grèce est encore particulier, mais c'est que dans les enquêtes statistiques dont on dispose, c'est que on observe notamment celle du Crédoc, hein, sur justement la représentation de l'impôt, le consentement à l'impôt, on observe un basculement du point de vue de l'acceptation que l'État finance sa solidarité, participe à la redistribution.
On continuera à en parler au cours de la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. La première partie est terminée. Nous nous retrouvons donc dans 3 minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
We'll be right back.
d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. L'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale est aujourd'hui consacrée à la question fiscale et à l'attachement ou pas des citoyens à l'impôt. Deux invités dans ce studio, Gilles Dufresneau, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, et Alexis Spire, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Dans la première partie de cette émission, nous avons en particulier parlé de la situation grecque et de la difficulté qu'il y a parfois à lever l'impôt, avec une notion qui fait son apparition, c'est celle de civisme fiscal. Qu'est-ce que c'est que le civisme fiscal, Alexis Spire ?
Le civisme fiscal, on peut le définir de façon assez élémentaire comme le fait de remplir ses obligations fiscales. Les anglo-saxons disent compliance, en fait tax compliance. Voilà, c'est le fait de remplir ses obligations fiscales. Ensuite, il faut être vigilant parce qu'on souvent on confond en fait civisme fiscal et consentement à l'impôt. C'est-à-dire que dans l'idée de civisme fiscal, il y a l'idée du fait de remplir de façon pratique ses obligations fiscales. La question du consentement à l'impôt, c'est plus l'idée de, dans ses représentations, dans ses avis, est-ce que on trouve légitime l'activité de l'État par rapport à toutes les questions fiscales, à la fois les prélèvements et l'utilisation. Et donc je pense qu'il faut bien distinguer les deux, la question du consentement à l'impôt, qui est presque une question politique de vivre ensemble et de rapport à l'État, et la question du civisme fiscal, qui est presque une question de rapport au droit et de mise en conformité avec la loi.
L'économiste partage le point de vue du sociologue,
Gilles Dufresneau. Je suis entièrement d'accord. L'économiste, lui, s'intéresse davantage au consentement à payer l'impôt, parce que c'est ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce que les gens veulent payer des impôts ou pas, et qui définit la rentabilité, le rendement de l'impôt. Donc je suis d'accord.
Le rendement de l'impôt,
c'est le rendement de l'impôt, c'est potentiellement dans ma caisse je devrais avoir 100 milliards, mais mon système fiscal fait que je n'ai que 50 milliards, et donc ça peut signifier plein de choses, soit que les gens ne payent pas l'impôt, qu'il y a de la fraude, soit que les gens utilisent le système pour avoir de nombreuses exemptions, soit que l'administration fiscale n'est pas efficace dans sa façon de collecter l'impôt. Donc les économistes s'intéressent à cela, donc le rendement de l'impôt et également, je le redis, son aspect redistributif.
Qu'est-ce qui favorise le civisme fiscal ou le consentement à l'impôt ? Est-ce que c'est fonction du niveau d'études, des traditions religieuses ou politiques ?
Encore une fois, les deux sont pas forcément liés. On peut prendre l'exemple des bonnets rouges, qui est assez intéressant.
Alors, c'est en Bretagne.
C'est en Bretagne, le mouvement qui a été déclenché en 2013, où vous avez eu un très fort mouvement de contestation de l'impôt, donc de presque que, en l'occurrence, c'était la contestation de l'écotaxe. Mais on a dans cette région de Bretagne des taux de civisme fiscal qui sont très très élevés, au-delà de 98%, comme dans beaucoup de régions.
C'est-à-dire
de France.
C'est-à-dire que les gens payent leur impôt sur leur revenu, sur l'ongle.
Exactement. C'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois aller manifester contre les pratiques de l'écotaxe, tout en continuant à payer l'impôt. Et donc ça c'est, encore une fois, ça illustre le fait que c'est deux choses très différentes. Ensuite, encore une fois, globalement, en France, on a dans la façon dont l'administration l'enregistre, on a des taux de civisme fiscal qui sont très élevés, en fait.
C'est-à-dire que les gens payent leurs impôts.
Alors, pour autant que l'administration le sache, en fait.
Sache quoi ?
C'est-à-dire que le problème de la fraude fiscale, c'est que, par définition, l'administration a beaucoup de mal à savoir quelle est son ampleur. On la chiffre entre 60 et 80 milliards. C'est une espèce de fourchette. Et donc, partant de là, c'est difficile de savoir que recouvre cette espèce de continent de la fraude, qui est à la fois de la fraude à la TVA, de la fraude à l'ISF, de la mauvaise déclaration. C'est un continent qui est très hétérogène, en fait.
Alors, dans les pays développés, le civisme fiscal, restons-en à cette notion, aurait apparemment tendance à s'éroder. C'est une des conséquences paradoxales de la mondialisation. Écoutez ce qu'en dit Isabelle Vallot, spécialiste des questions fiscales au sein d'Expertise France, l'agence française d'expertise technique internationale. Isabelle Vallot.
Je pense que le sentiment partagé par les citoyens du monde entier, c'est qu'on a une érosion des bases fiscales, notamment liée à l'internationalisation de l'économie, et que les États ont de plus en plus de mal à maîtriser la territorialité de l'impôt. Et donc, c'était déjà une spécificité dans les pays les moins développés. C'était déjà une difficulté que rencontraient les pays africains. Et on constate depuis quelques années que ces difficultés se sont généralisées aux pays riches, en fait.
Qu'est-ce que vous appelez la difficulté à territorialiser l'impôt ?
Les États collectent l'impôt sur leur territoire. territoire selon des règles de territorialité. Hein. Il y a des règles qui sont données pour dire dans quel cas une entreprise ou un particulier est redevable d'un impôt sur un territoire. C'est en théorie relativement simple d'identifier le lieu d'imposition d'une prestation matérielle qui est localisée dans un pays. Mais quand on a une prestation immatérielle et des flux économiques qui sont internationaux avec des montages juridiques d'entreprises multinationales de plus en plus sophistiqués, c'est extrêmement compliqué pour les administrations fiscales des différents pays. Alors bien sûr, dans les pays en développement où on a des administrations fiscales qui ont des faibles capacités, c'est extrêmement compliqué, mais c'est aussi un vrai défi pour les administrations plus modernes des pays riches.
Ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que ces difficultés à imposer les grandes entreprises multinationales qui se joue des frontières, a un impact sur le citoyen lambda et sur son adhésion à l'impôt.
Bien sûr, parce que le sentiment que peuvent avoir les citoyens, c'est que l'effort fiscal demandé repose sur une minorité qui ne peut pas contourner les règles et que cette catégorie n'est pas forcément la plus fortunée et que des personnes physico-morales qui ont les moyens juridiques de délocaliser leurs richesses par des montages plus ou moins sophistiqués, eux, vont se donner les moyens d'échapper. Donc il y a cette optimisation fiscale dont on parle souvent dans la presse ces dernières années conduire à un sentiment d'inéquité, d'injustice dans l'effort fiscal qui est demandé aux citoyens.
Alors c'était Isabelle Valo d'Expertise France, l'agence française d'expertise technique internationale. Alexis Pierre, vous partagez ce sentiment qu'Isabelle Valo exprime ?
Oui, je pense qu'effectivement, depuis le début des années 80, on a eu tout un tas d'évolutions technologiques, notamment la dématérialisation des flux financiers, qui ont d'une certaine manière accru l'inégalité des citoyens face à la fraude, on pourrait dire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on parlait d'inégalité face à l'impôt du point de vue des prélèvements, et là, de plus en plus, justement, ça a d'une certaine manière démocratisé les possibilités de fraude fiscale et notamment pour les détenteurs de patrimoine. Et dans le même temps, en fait, les progrès de l'informatique ont permis aux administrations de capter et de cerner, d'enserrer de mieux en mieux ceux dont les revenus sont déclarés par des institutions ou les revenus salariés. Et donc ça, de ce point de vue là on a vraiment, disons, d'un côté des administrations qui arrivent de mieux en mieux à cerner le maillage, disons, des contribuables dont les revenus sont déclarés par des institutions, et de l'autre des détenteurs de patrimoine éventuellement financier qui peuvent de plus en plus vite et de plus en plus facilement, disons, délocaliser. Et donc le riche contribuable qui part avec sa valise de billets en Suisse, c'est plus du tout à l'ordre du jour, parce que il y a des possibilités d'aller beaucoup plus vite. Et donc on l'a vu au moment des scandales de LuxLeaks, c'est que désormais de plus en plus de, disons, une sphère de plus en plus large de contribuables qui bénéficient de ces possibilités liées à la dématérialisation des flux financiers.
Gilles Dufresneau, vous parliez tout à l'heure de rendement de l'impôt.
Oui.
Est-ce que tout ça affecte le rendement de l'impôt ?
Oui, naturellement. Mais il me semble tout de même qu'il faut distinguer plusieurs choses. Ce dont on parle beaucoup de l'impôt sur les sociétés. Effectivement, c'est là que le rendement est le plus faible, entre guillemets. Ça représente en Europe à peine 5% du total des recettes fiscales, et aux États-Unis, où c'est le plus élevé, c'est 10 à 11%. Bon, mais ce n'est qu'une partie de l'impôt. Une société ou une entreprise paye ses impôts, paye aussi des cotisations sociales. Alors c'est là qu'on a le gisement le plus important, parce que là, vous pouvez avoir une activité internationale dématérialisée ou pas. À partir du moment où vous employez des gens, vous devez payer des cotisations sociales. Cotisations sociales, employeurs et employés. Et je dirais que, alors c'est un peu plus difficile de frauder. C'est relativement facile d'avoir de la fraude sur l'impôt sur les sociétés, ou alors d'échapper à l'impôt, même si on ne fraude pas. C'est un petit peu moins le cas en ce qui concerne les cotisations.
Gilles Dufresneau constate souvent qu'il y a une corrélation entre le bon niveau de prélèvement d'impôt, ce que vous appelez dans votre langage un peu d'économiste le rendement, et le degré de développement économique des pays où ces impôts sont prélevés. C'est vrai d'abord, et deuxièmement, comment vous l'expliquez ?
Alors c'est tout à fait vrai, et ça peut s'expliquer par deux types de facteurs, des facteurs, on va dire, socio-économiques et des facteurs institutionnels. Alors je vais commencer par les facteurs institutionnels. En règle générale, dans les pays développés, on a des administrations fiscales qui sont mieux organisées, les contrôles sont plus efficaces, etc. Donc par rapport aux pays en développement. Et puis les facteurs socio-économiques, vous savez, c'est que Il y a une étude de l'OCDE qui a été faite et qui montre, par exemple, qu'il y a une corrélation positive entre le niveau d'études et le consentement à payer l'impôt. Entre le niveau des règles démocratiques...
C'est-à-dire que plus on a fait d'études...
Plus on a fait d'études et plus on va payer les impôts. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait à quoi ça sert. On va le faire beaucoup plus facilement. Il y a une corrélation entre le niveau de démocratie et le consentement à payer les impôts. C'est-à-dire, bon, vous disiez tout à l'heure que même si les gens râlent, quand ils payent les impôts, ils les payent quand même. Bon. Et donc... Tous ces facteurs sont évidemment corrélés avec le niveau de développement, parce que il y a aussi une corrélation avec les modalités de la gouvernance, on va dire ça comme
mais
ça.
Mais c'est un peu l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui précède est-ce que c'est d'abord le consentement à l'impôt qui arrive et ensuite le développement, ou le développement et puis le consentement à l'impôt, Alexis Spire? Dans quel sens ça se déroule?
Je pense qu'il y a aussi quand même un élément très important, c'est la question de l'administration, du développement de l'État et de la place de l'État dans la société, en fait. Hein, et c'est, voilà, quand on dit démocratie, on va un peu vite. C'est-à-dire que il y a aussi ce qui est très important, c'est la façon dont l'État est enserré dans les échanges économiques. Parce que là aussi, hein, le clivage qu'il faut quand même avoir en tête, c'est aussi entre les salariés et les indépendants. Et selon la façon dont, encore une fois, dont l'État a prise sur les différents revenus, c'est quelque chose de très important. Et selon le niveau de développement d'administration et aussi le rapport, là aussi, hein, de civisme vis-à-vis de cette administration, c'est quelque chose qui joue considérablement dans le civisme fiscal.
Alors, c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons d'impôts, vous l'aurez compris. Deux invités, l'économiste Gilles Dufresneau et le sociologue Alexis Spire. On va partir maintenant à Brazzaville, en République du Congo, où l'impôt sur le revenu contrebalance un peu la baisse des prix du pétrole, qui est la principale ressource à l'exportation du pays. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Loïcia Martial à Brazzaville.
Nous payons les impôts sur le revenu des personnes physiques qu'on appelle IRPP ici. Donc effectivement, les fonctionnaires, tout fonctionnaire congolais paye ses impôts.
Christian, la cinquantaine révolue est fonctionnaire de l'État. Il est conscient qu'il paye l'impôt depuis toujours. Il ne s'oppose pas à ce devoir civique et nous fait observer que chaque agent de l'État paye en fonction de son revenu.
Ça dépend des charges que vous avez, si vous êtes marié ou pas, si vous avez une famille, des enfants. Le taux varie effectivement selon les charges qu'on a.
Tous les consommateurs congolais sont imposables. Arsène n'est pas fonctionnaire, mais il est convaincu que dans la vie quotidienne, il s'acquitte de l'impôt.
De façon un peu induite, hein, on paye l'impôt, par exemple, sur la consommation de l'électricité. Chaque fois qu'une facture tombe, il y a 1000 francs que nous reversons à la RAV, la rédevance audiovisuelle. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la collecte de cet impôt-là, il n'y a pas une sensibilisation qui a été faite aux consommateurs.
Au Congo, la culture fiscale est encore un grand problème à régler, notamment dans le secteur informel, où la Direction générale des impôts note un grand manque à gagner. Antoine Ngakoso est directeur général des impôts depuis 2011.
Parce que ce secteur, il est à la fois dense et opaque. En d'autres termes, je voulais dire que les acteurs de ce secteur ont un mépris vis-à-vis de l'impôt. De façon délibérée, ils refusent de respecter leurs obligations fiscales. Les recettes du secteur informel sont très faibles. Elles ne représentent que 0,22% du total des recettes fiscales. Alors que selon les statistiques de notre pays, le secteur informel représente à lui seul 30 à 40% de notre PIB.
Les impôts font partie du secteur hors pétrole et représentent une part importante dans le budget de l'État. Depuis fin 2014, le prix du baril de pétrole connaît une baisse drastique sur le marché international. Mais au Congo, les impôts rassurent.
Avec la baisse du baril de pétrole depuis 2014, nous avons constaté que la contribution des recettes fiscales hors pétrole au budget de l'État est en train de s'améliorer.
C'était un reportage signé Loïcia Martial à Brazzaville. Gilles Dufresneau, 0,22% du total des impôts sur le revenu prélevé auprès du secteur informel, qui représente 30% du PIB congolais. Mais c'est incroyable comme un rapport de... Oui, comme c'est... rendement, c'est, oui. C'est le mot qui convient.
C'est extrêmement faible et c'est un des principaux problèmes des pays en développement, c'est le fait que justement le secteur informel est par définition un secteur sur lequel on a assez peu d'informations. Donc finalement la base, l'assiette, c'est comme ça que l'on dit, c'est-à-dire que les revenus qu'on va taxer, mais finalement, on a assez peu d'informations dessus. C'est vrai que c'est un phénomène qui est généralisé en Afrique, mais qui peut s'expliquer. C'est pas simplement que les gens fuient devant leurs responsabilités, c'est que Premièrement, généralement, c'est un secteur qui est occupé par beaucoup d'indépendants, beaucoup de travailleurs pauvres, etc. Donc, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils devraient payer un impôt alors que leurs revenus sont extrêmement bas. Vous avez assez rarement de grandes entreprises qui sont dans le secteur informel. Et puis, la deuxième chose, c'est que je serais un petit peu moins pessimiste parce que ce que font un certain nombre d'États, c'est qu'ils ont quand même une idée grossière du niveau d'activité. Donc, il y a généralement un prélèvement, mais qui est forfaitaire, une sorte de taxe, en anglais on dit flat tax, une taxe proportionnelle qui est définie en disant, ben voilà, vous payez tant. Mais même si le rendement reste faible.
Alexis Pierre, vous voyez prendre des notes, ce reportage, bien que vous ne connaissiez pas le Congo, qu'est-ce qui vous inspire au regard de vos travaux et de cette Europe que vous avez épluchée sur le plan fiscal, s'entend ?
Il faut toujours garder en tête que les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement toutes ces questions de rendement de l'impôt, mais il y a aussi la question de l'inégalité devant l'impôt. Voilà, trop souvent on parle de taux de prélèvement obligatoire, de taux global, et sans voir que en fait derrière ce taux global, il y a quand même des situations qui sont très différentes et des situations qui engagent à la fois du point de vue des impôts et du point de vue des possibilités de l'éviter, des comportements de fuite très différents, et que effectivement quand on parle du secteur informel, il faut toujours avoir en tête que c'est une partie des contribuables très particulière qui est plutôt au bas de l'échelle sociale, en fait.
Gilles Dufresneau, l'Afrique se développe beaucoup. C'est dans tous les médias, dans tous les journaux, dans toutes les radios et les télévisions. Est-ce que ça amène plus d'impôts dans les caisses des États africains ?
Alors, il faut que ça amène plus d'impôts. Dans la mesure où il ne peut pas y avoir de développement si on n'a pas des infrastructures, si on n'a pas des services publics. Et pour cela, vous voyez, il y a deux façons de le financer, soit par la dette, soit par l'impôt. On connaît les problèmes qu'ont rencontré les pays africains concernant la dette, donc la seule alternative, c'est avoir des impôts. Le problème fondamental qui se pose dans les pays africains, c'est la répartition de l'impôt. C'est finalement essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une minorité, soit des entreprises, soit des ménages qui supportent cette charge-là. Donc je pense que c'est ça c'est le défi important, c'est la répartition de la charge en fait de l'impôt. Je pense que c'est ça. Alors est-ce que ça amène de l'impôt ? Je dirais que un des freins en Afrique, c'est il est pas quantitatif, il est qualitatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des administrations fiscales qui soient organisées, qui soient indépendantes du politique, pour justement favoriser les rentrées fiscales.
Parce que le politique ne favorise pas ces rentrées fiscales ?
Tout simplement parce que soit c'est coûteux, vous savez, pour avoir un rendement de l'impôt élevé, il faut des contrôles, etc. Donc ça peut être coûteux. Peut-être que on ne met pas les moyens qu'il faut. Et puis surtout, lorsque vous avez par exemple de la fraude fiscale, il faut que le système judiciaire soit efficace. Et évidemment, c'est la difficulté, c'est que si vous n'avez pas de système judiciaire qui est indépendant, ça peut devenir extrêmement compliqué.
On dit que le taux de prélèvement en Afrique est pour l'instant de 16-17%.
Tout à fait.
Est-ce que c'est suffisant ?
Alors, pour l'ONU, c'est le minimum. Bien évidemment, c'est insuffisant de mon point de vue au regard finalement des services publics, etc.
Et
des besoins, bien entendu.
Alexis Pierce, c'est des chiffres que vous connaissez, ça, les taux de prélèvement globaux.
Oui, mais je pense qu'il faut être très très prudent par rapport à ces taux de prélèvement globaux parce que ça englobe des choses qui sont quand même très différentes. Et par exemple, dans le cas de la France et d'autres pays européens, on a des taux de prélèvement obligatoires qui sont très importants, mais qui comprennent en fait tout un système d'État social et de protection sociale qui n'est pas englobé dans d'autres États. Et donc là, je pense que voilà, il faut être très vigilant parce que quand vous déléguez tous ces pans-là au privé, ça ne veut pas dire que les gens ne le payent pas. Ils le payent, mais ils le payent au privé. Et donc sur cette question des taux de comparaison, disons mondiale, des taux de prélèvement obligatoire, je pense qu'il faut être très vigilant sur ce que ça recouvre et ce que ça implique en termes de redistribution et en termes de présence de l'État social. En fait,
l'impôt, c'est une ressource pour les budgets nationaux au même titre que les exportations pétrolières. On l'a vu au cours du reportage de Loïcien Martial au Congo, mais l'impôt peut aussi permettre de se dégager d'une aide internationale parfois ressentie comme pesante. Exemple avec ces propos du ministre malien de l'économie, Mamadou Igor Diarra, propos recueillis le 24 avril dernier à Bamako par David Bachet, notre correspondant au Mali, à l'occasion de la visite d'une délégation du FMI. Mamadou Igor Diarra.
Tout le monde nous aide. Le Mali a bénéficié d'un élan de solidarité extraordinaire. C'est un pays qui est souvent même adoubé par les partenaires techniques et financiers. Mais nous devons aussi compter sur nous-mêmes. Et nous en avons les moyens. Nous avons un secteur privé dynamique. Nous avons même des populations qui sont prêtes à contribuer s'il s'agit de payer pour que notre pays retrouve sa dignité. Et pour cela, la contribution du citoyen, la contribution de l'entreprise, ce sont les impôts et les taxes. Tout le monde devrait désormais s'inscrire dans cette perspective. C'est pour cette raison que dans les prochains jours, un certain nombre de taxes vont être vues, soit au niveau de la base, soit au niveau du taux. Mais c'est un investissement que les personnes physiques et morales de notre pays font sur l'avenir. C'est un investissement que ces personnes font aussi sur notre sécurité, sur la quiétude de nos familles. Mais c'est aussi les bases pour assurer un véritable développement.
Gilles Dufresneau, les impôts, c'est un investissement des citoyens ?
Oui, les impôts, c'est un investissement des citoyens. Et pour réagir un petit peu au reportage, je dirais que en ce qui concerne l'Afrique, le principal problème, c'est un problème d'assiette. Ça veut dire que tout le monde est d'accord qu'il faut payer les impôts, mais quelles sont les assiettes ? Or, vous savez...
L'assiette, c'est la base.
L'assiette, c'est la base, c'est-à-dire ce qu'on taxe. Bon. Or, comme vous le savez, compte tenu de la mondialisation, on a demandé à de nombreux pays d'Afrique de supprimer quelque chose qui était un gisement important, qui était tous les taxes liées au commerce extérieur, parce qu'évidemment, ce sont des pays qui ont des richesses plutôt au niveau de l'agriculture, etc. Bon, on leur a demandé de supprimer ça et d'aller vers une fiscalité intérieure, de mettre l'accent sur ce qu'on appelle la transition fiscale. Mais la transition fiscale, ça ne fonctionne que si vous avez une activité domestique qui est développée, si vous avez des industries, si vous avez des activités suffisantes. Bon, et je suis pas certain que ce soit aussi facile que ce que dit le ministre.
Alexis Spire, cette transition fiscale, vous la connaissez, le passage d'un impôt sur les transactions extérieures, importation, exportation, à un impôt sur les revenus intérieurs.
Ben, disons ce à quoi ça renvoie, et notamment ce qui était dit dans le reportage, c'est aussi là aussi.
Là, vous parlez du reportage au Congo.
L'intervention du ministre malien, c'est que il y a un lien et qu'il faut rappeler, il y a un lien très fort entre impôts et souveraineté nationale, et qui se double aujourd'hui de la question de la dette et de la question de l'endettement. Mais c'est vrai que
il faut... Comment est-ce que vous faites le lien entre impôts et souveraineté nationale?
Dans le sens où, encore une fois, c'est à partir du moment où l'impôt est le poumon de l'État, il intervient à la fois au cœur de l'action de l'État, mais aussi de sa capacité à rassembler, disons, une population autour d'un projet commun, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose. Il faut revenir à la question de la philosophie politique de l'impôt et de ce à quoi ça renvoie. C'est ce qui fait société, c'est ce qui fait sens pour une communauté d'individus de vivre ensemble. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a été très travaillé par nos philosophes des Lumières, mais que d'une certaine manière, c'est des enjeux qu'on retrouve aussi dans ces pays qui ont évidemment, alors même s'ils sont transposés différemment, mais des débats avec des enjeux comparables.
Gilles Dufresneau, se passer de l'aide au développement pour remplacer ces sommes qui arrivent de l'extérieur par l'impôt prélevé auprès des citoyens, ça favorise le développement économique d'un État, d'un pays ?
Oui, ça favorise, mais surtout ça donne, je crois que c'est surtout une question d'image. Le ministre disait soyons en quelque sorte soyons fiers de nous. Je crois que c'est surtout une question d'image, c'est le fait d'avoir un développement qui ne dépend pas de l'aide extérieure, en tout cas qui dépend de moins en moins. Effectivement, c'est plus gratifiant, on va dire ça comme ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est plus gratifiant ?
C'est plus gratifiant, ça veut dire que si vous avez la route sur laquelle vous circulez, eh bien vous l'avez financée parce que c'est vous qui collectivement l'avait payé, eh bien peut-être que en termes de comportement ensuite, si vous êtes un chauffeur de camion et qu'il y a un certain nombre de conditions techniques pour que la route ne s'abîme pas, etc., vous allez peut-être faire beaucoup plus attention que si finalement cette route, elle a été construite, vous en bénéficiez, mais c'était payé par l'extérieur, et donc vous vous sentez un peu moins concerné.
C'est je cultive mon champ, donc j'en prends plus soin.
C'est je cultive mon champ, j'ai contribué aux infrastructures, etc. Et donc
c'est moi qui les ai payés.
C'est moi qui les ai payés. Et c'est aussi, les autres qui les ont payés. C'est moi et c'est aussi les autres. Donc c'est quelque chose de collectif. Donc je suis effectivement.
Donc ça c'est un investissement, je dirais économique, financier, mais aussi psychologique et politique. Alexis Pierre.
Oui, mais ce qui est très important dans l'impôt, c'est l'idée qu'il n'y a pas de contrepartie directe, immédiate et visible. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais que c'est de l'ordre de la question de la solidarité et presque du vivre ensemble. C'est que alors évidemment c'est ça qui est aujourd'hui qui pose problème et qui est presque qui est un modèle qui peut-être est en train d'entrer en crise et qu'on essaye de remplacer par des impôts affectés où les gens pourraient constater de visu exactement ce qui finance et ce qui paye. Or le principe de l'impôt, et c'est en ça qu'il est lié à la souveraineté nationale et au projet de société qu'on veut construire, c'est précisément que c'est un prélèvement qui est fondé sur l'idée que il va à la communauté dans son ensemble et qui n'est pas affecté directement à tel ou tel besoin, mais que il est à la fois volontaire et une manière de déléguer une partie de sa une partie de sa richesse à au bien commun.
Eh bien, le mot bien commun est un mot juste pour terminer cette émission. Cet écho d'ici, écho d'ailleurs, était réalisé par Mathieu Salabert. Merci à vous, Alexis Spire et Gilles Dufresneau, d'y avoir participé. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.